Salut à toutes et à tous, c'est Carrefour du Monde, l'émission de l'actualité internationale vue de manière décalée. Vous écoutez Carrefour du Monde à Bruxelles sur Radio Campus 107.2 FM et sur Radio Panique 105.4 FM. À Mons le mercredi à 10h et le samedi à midi sur RLJ 99.9 FM. Et à Montréal le dimanche à 9h sur CISM 89.3 FM. Sans oublier le site internet Carrefour du Monde. Aujourd'hui c'est la dernière émission du régime été de Carrefour du Monde. Dans cette édition nous allons réécouter l'entrevue du psychologue et psychanalyste franco-argentin Miguel Benassayag. Il nous dressera le portrait d'une nouvelle radicalité désireuse de changer la vie. Par ailleurs, nous allons revenir sur l'hôtel Tagawa à Bruxelles. Cet ancien hôtel de luxe est une alternative face à la crise du logement que connaît la capitale européenne. Le portrait de quelques locataires et l'analyse de l'un des fondateurs du Tagawa dans la deuxième partie de l'émission. Mais démarrons ce nouveau rendez-vous avec Miguel Benassayag. Ce philosophe et psychanalyste est aussi un ancien combattant de la guérilla guevariste en Argentine. Il a passé plusieurs années en prison pour ses engagements politique. À sa libération, il s'est installé en France où il réfléchit aux moyens de rester fidèle aux luttes révolutionnaires passées tout en tirant les enseignements de leurs échecs. Miguel Benassayag est l'auteur de plusieurs ouvrages sur cette nouvelle radicalité politique et sociale. Voici ce qu'il me racontait lors de son passage à Bruxelles en mai dernier.
Je m'appelle Miguel Benassayag, je suis franco-argentin. Et je suis de mon état philosophe et psychanalyste. Et je suis quelqu'un qui est depuis très longtemps très engagé dans les luttes d'émancipation, pour dire comme ça. J'ai commencé très très jeune en tant que membre de la guérilla guevariste chez moi en Argentine. J'étais pendant presque 15 ans membre de cette mouvance-là. J'ai passé plusieurs années en prison, 4 ans et demi. J'étais exilé en France, je suis rentré. Bon, et maintenant je suis très engagé théoriquement et pratiquement dans ce qui sont des expériences concrètes de nouvelles radicalités en Argentine ou en France ou en Italie avec les centres sociaux. Voilà, en France par exemple avec les sans, ce qu'on appelle les sans-papiers, les sans-toit, les sans... bon voilà.
Justement, cette nouvelle radicalité, on la retrouve, que ce soit dans des livres comme « Résister, c'est créer », du contre-pouvoir. C'est l'idée de ce pas de côté, c'est finalement avoir repris une citation de Gilles Deleuze, « Résister, c'est créer ». Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément ?
Et ça veut dire que pendant très longtemps, l'idée, la pratique du concept de résistance était liée au fait qu'il faut réagir, il faut réagir face au mal, il faut réagir. Comme si celui qui lutte contre le mal serait ipso facto et en soi déjà porteur d'un projet supérieur à celui qui s'oppose. Or, tout bêtement, l'histoire a montré que ceci n'était pas vrai, qu'il ne suffisait pas de s'opposer au mal, de s'opposer à l'oppression, de s'opposer au fascisme pour être en soi porteur du mieux. Alors, des exemples terribles comme Pol Pot, effectivement, ou Staline, mais aussi des exemples plus soft, on peut citer. Des gens qui ont gagné les élections à gauche, qui ont montré que voilà, qu'il suffisait pas d'être contre les mâles pour avoir quelque chose qui dépassait, qui supérait. Alors résister c'est créer, ça veut dire que quand même il faut résister c'est surtout créer des possibles, créer des nouveaux possibles, créer des nouveaux liens, créer des nouvelles réalités qui montrent dans la pratique que d'autres choses sont possibles ici et maintenant et non pas en tant que promesse qui délègue notre puissance à un leader ou à un parti.
Donc on constate le succès de ces pas de côté en Amérique latine. Ça se passe également en Europe. Si je vous demandais quelques exemples pour la France, vous pourriez m'en citer ?
En France, par exemple, il y a ce à quoi je participe qui est la coordination des sans. C'est-à-dire les sans-papiers, les sans-toit, les sans-travail, les sans-liberté, parce qu'il y a des prisonniers de la santé qui participent aussi à ça. On essaie de coordonner ça avec des handicapés, des groupes, bon. Et qui sont tous des groupes qui sont dans des pratiques d'une très grande radicalité, qui consistent par exemple à appuyer les clandestins ou à occuper des immeubles. Mais surtout en France, ce qu'il y a, c'est une subjectivité très très vaste, anti-système, et des recherches de nouveaux types de sociabilité dans les mondes artistiques, dans les mondes de la musique, dans les quartiers. Donc, dans des trucs qui sont absolument inévaluables. On ne peut pas ni évaluer ni compter ça, mais il existe des régions entières, par exemple Montreuil, à côté de Paris, et dans la banlieue proche de Parisienne, c'est une myriade des ateliers, des collectifs, des trucs des quartiers, des jardins potagers collectifs. Alors en France, il y a les sans, mais il y a surtout un soubassement, une sorte de soubassement très diffus de quelque chose qui n'est pas immédiatement politique et existentiel, de ce que vous dites exactement, de ces pas de côté.
Est-ce que vous avez justement des exemples concrets par rapport à cette nouvelle radicalité ou en tout cas ce nouveau protagonisme politique et social en Argentine?
Oui, en Argentine, c'est très très développé. C'est-à-dire que bon, il y a des gens qui occupent des terres, il y a des quartiers en autogestion. Là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 1000 usines en autogestion. Mais il faut quand même savoir qu'il y a, par exemple, une compagnie aérienne. Hein. Ce n'est pas des petits ateliers. Hein. Il y a des hôtels, des usines, bon, voilà. Donc, en Argentine, par exemple, on voit depuis... Ça se développe depuis plus de 20 ans, hein, doucement. Mais ça se développe depuis 20 ans. Maintenant, ça émerge, clairement. On voit quand même que les gens ne sont plus dans une dynamique de croire à tel ou tel parti. Les militants politiques, ils leur rentrent chez eux avec leurs journaux remplis de promesses. Et vraiment, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui ne fonctionne plus. Ils ne comprennent pas parce qu'ils parlent d'injustice dans leurs journaux, ils parlent d'un monde meilleur, ils parlent d'un autre monde possible, des trucs comme ça. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens qui souffrent, les gens du peuple, ne veulent pas de leurs promesses. Et le plus clair de toute cette puissance populaire est mise dans la création de nouveaux modes de vie, de nouveaux modes de sociabilité. Par exemple, les piqueteros, qui est un dernier mode de lutte, il est aussi basé dans la construction. Parce que les piqueteros, c'est vrai, ils coupent les routes, ils font des assemblées populaires itinérantes, mais à la fois, ce qui émerge de chaque assemblée, de chaque coupure des routes, sont des changements concrets pour la région où les piquets va exister. Et il développe des universités populaires, de la médecine sociale, c'est-à-dire qu'il y a un grand mouvement très très multiforme et pas du tout axé derrière une colonne vertébrale, et c'est très rhizomatique pour dire, comme dirait justement Deleuze, hein, mais qui vraiment est là, est dans la création. Alors bon, l'exemple des élections qui vient d'avoir lieu en Argentine montre que les gens, contrairement à ce qu'on aurait pu croire après l'insurrection d'il y a un an, sont allés voter massivement, mais sont allés voter massivement non pas parce qu'ils croyaient aux promesses d'un candidat, mais pour d'abord écarter les candidats de la répression du Fonds monétaire international et appuyer les candidats qui avaient promis d'accompagner gentiment la mouvance populaire. Donc la question de la promesse était écartée d'emblée. Quoi.
Comme vous dites, ce sont des réseaux qui ne sont pas forcément structurés, très multiformes. Par exemple, dans le cas d'une usine autogérée, comment arrivent à se constituer des entreprises de ce type-là en Argentine?
Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la crise avec les insurrections, avec la fuite de toute la classe politique, comme ça. Et donc, comme il y a une dévaluation très forte qui aurait dû aller à 300%, mais qui n'a pas été à 300% parce que justement tout ce matelas des réseaux sociaux a empêché la débâcle économique, bon, les patrons ont spéculé, ils ont mis la clé sous la porte. Alors, il y a un tas d'usines que les lendemains de la dévaluation sont trouvées porte fermée. Et alors, à ce moment-là, les ouvriers, les cadres, les employés ont occupé ces usines-là. Ils l'ont occupé dans quelque chose qui est même une figure légale, qui permet que quand il y a un dépôt de bilan brutal, hein, apparaisse comme une possibilité que les juges donnent pendant quelques temps pour voir qu'est-ce qu'ils font les employés, de reprendre la direction de l'usine. Et si ça marche, alors, mettons 6 mois après, 1 an après, les juges décident ou pas de donner la direction de l'usine à ces ouvriers-là. Donc, il y a même des figures légales qui avalisent ça. Alors, ce qu'ils sont trouvés, c'est que ces usines-là, pas seulement continuaient à fonctionner, mais ils faisaient des bénéfices. Alors, ces usines en autogestion, ils ont continué à produire, ils ont fait des bénéfices, mais ils ont fonctionné dans un réseau qui est le réseau d'usines en autogestion, qui sont très solidaires. Alors, par exemple, entre elles, s'aident, mais aussi, en plus, ils sont tout envolés de la production qui va vers les quartiers en autogestion, vers les piqueteros, vers les inondés, par exemple, quand il y a des damnifiés. Donc, il y a même envolé, c'est-à-dire que ce ne sont pas des petites usines en coopérative. Vraiment, il y a un contenu radical très fort, mais ça marche, ça marche.
« Bruxelles, tout comme Montréal, connaît une importante crise du logement. Cette crise est encore accentuée à Bruxelles par son statut de capitale européenne. Des solutions existent néanmoins face à l'explosion des prix de l'immobilier. C'est le cas de l'hôtel Tagawa situé sur l'avenue Louise. Cet ancien hôtel de luxe était inoccupé depuis plusieurs années. Il accueille maintenant une quarantaine de locataires. Voici le portrait de 5 habitants du Tagawa, un reportage de Nicolas Torres.
Il y a d'abord un combat politique, un combat social qu'on mène. Il y a évidemment une vie communautaire, parce qu'il y a un certain nombre de tâches et de fêtes, de choses qui sont véritablement partagées par le groupe. Et puis alors, il y a aussi une vocation culturelle. Et il n'est pas improbable qu'on puisse avoir une véritable vocation culturelle, une véritable programmation. Donc voilà, si on met côte à côte le projet... politique et sociale, le projet culturel et une forme de vie communautaire, voilà, je crois qu'on pourrait avoir une bonne définition de ce qui me plaît ici. Ouais.
Plus personnellement, j'imagine, tu peux quand même faire la comparaison de ce que ça représente d'habiter dans un petit appartement cosy où personne ne va venir t'emmerder et habiter au Tagawa où tu es beaucoup plus menacé, même dans ton petit intérieur. C'est quand même un investissement. Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait une croix sur cette sécurité ou est-ce que tu as l'impression que peut-être que tu as perdu une certaine sécurité, mais tu as gagné tellement d'autres choses.
Disons que économiquement, je ne suis pas dans une situation viable pour pouvoir m'offrir un logement normal, selon ce que les bonnes gens considéraient. Donc je veux dire, nous, on s'adresse aussi à un public qui, comme moi, est défavorisé socialement. C'est quand même un facteur très très important. Moi, je ne suis pas sûr de vouloir toute ma vie vivre dans une certaine précarité à la fois légale et parfois matérielle. Mais quoi qu'il en soit, je veux dire, il y a une réponse à apporter, et cette réponse, elle doit être apportée à moi comme à des milliers de gens à Bruxelles qui sont véritablement dans une situation précaire au niveau du logement.
Qu'est-ce que ça représente, si tu pouvais décrire ce que ça représente au quotidien, peut-être ce travail ensemble qui doit être très différent de ce que connaissent les gens quand ils rentrent chez eux en général?
J'étais pas spécialement quelqu'un qui avait un sens collectif énormément développé. Le fait de devoir gérer un consensus avec des gens, de décider des choses de manière coopérative et démocratique, de devoir remplir des tâches ensemble, je veux dire, c'est pas toujours facile, mais c'est certainement très très instructif. Et puis bon, au niveau de la convivialité pure et simple, c'est vrai que c'est très très gai de se réunir, de se faire des petites bouffes selon les affinités, de faire la fête tous ensemble, voilà, c'est très chouette.
En premier lieu, c'est quand même le fait de vivre avec beaucoup de gens. Je ne veux pas me retrouver dans un petit espace toute seule, ou à deux, ou avec les enfants. Et ça, c'est important de voir des gens. En plus, ici, il y a quand même quelques enfants, donc au fur et à mesure, je pensais qu'il y aurait moyen de faire des chouettes activités et tout.
Qu'est-ce que toi, tu peux exprimer ici que tu ne pourrais pas faire dans un petit appart, trois pièces
Mais moi, je dis, c'est d'abord le fait de vivre avec des gens, quoi. Parce que organiser des activités, ça, il faut encore que je vois. Parce que là, je m'occupe beaucoup de mon enfant, quoi. Et moi, je suis pas là depuis longtemps non plus dans ce groupe. Et il faut que je trouve, que je m'intègre. Ça se fait pas comme ça en deux mois.
Et voilà. Tu viens d'arriver il y a deux mois, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et avant, t'avais déjà fait d'autres expériences comme celle-là, enfin, c'est la première fois.
Non, ouais, non.
Tu logeais comment avant?
Aussi dans des maisons à plusieurs, mais louées, quoi.
Ouais.
Et c'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est bêtement des raisons pragmatiques ou tout à
non,
coup?
Non, c'est parce que ça fait pas longtemps que je suis à Bruxelles, donc j'avais pas envie non plus de rentrer comme ça dans un groupe que je ne connaissais pas du tout. Donc pendant un petit temps, je suis venue ici voir ce qu'il faisait.
Et voilà, comment ça se passe avec le petit ou la petite, je sais pas, en fait.
Ça se passe super bien, ça.
Je dis, est-ce que t'as tout à coup justement un tas de babysitters sous la main? Est-ce que tu sens un espèce de soutien collectif ou pas?
Ouais, ça oui, mais en plus, je trouve ça super important qu'ils voient d'autres gens que ses parents, qu'ils voient d'autres façons de faire.
Donc tu crois qu'il serait passé à côté de quelque chose s'il avait grandi dans un petit univers cosy, un petit trois pièces fermé à clé?
Je pense d'être marqué que par deux personnes, on est fermé à une petite façon de faire alors qu'il y a plein d'autres.
Ce qui a clairement à gagner, c'est l'apport collectif sur le projet, puisque chez nous, donc, le lieu est un lieu ouvert où chacun a ses zones de retranchement, mais où s'organise aussi toute une vie du quotidien, quoi. Je veux dire une vie relativement ouverte. Et ici, la configuration du lieu permet qu'on fonctionne sur un mode de invite-moi et je t'invite. Et on passe des soupers dans deux étages plus haut, ou bien ou bien on travaille 3 étages plus bas et je vais dire mais les gens habitent là et une grosse partie s'organise de manière collective. Maintenant, bon, c'est vrai, on a des familles qui eux fonctionnent sur des étages de manière plus familiale et chaque étage propose sa convivialité. Voilà, et puis on décide aussi de gérer notre convivialité par rapport à l'extérieur.
Ça te ferait quoi de te retrouver demain dans un petit 3 pièces comme tout le monde, tout seul ?
Là, ça pose la question de ce que je voudrais en dehors d'ici. Moi, je pense sérieusement retourner dans le rural, quoi, et me réinsérer là-bas, donc sur d'autres projets. Mais je cherche des réponses. Sur des projets comme ça, avec des gens qui seraient prêts à lancer aussi des initiatives et se mettre ensemble pour régler ensemble des solutions de convivialité, d'usage.
Quand je t'entends, c'est comme si tu avais du mal à habiter passivement, quoi. Il faut que tu vives quelque part.
L'habitat, c'est jamais qu'une protection, je veux dire, par rapport à l'extérieur. Chacun doit habiter, vivre, avoir un toit pour passer la nuit. Enfin, je veux dire, c'est la dignité de l'homme, quoi, je veux dire. C'est un de ses besoins fondamentaux et qui devrait être accessible à tout le monde. Quoi. Ça, moi, je pense simplement que je peux revenir à des moyens très modestes de vie et chercher la qualité plutôt dans le relationnel, dans le rapport à la nature, dans le rapport à l'environnement et construit et naturel quoi, et social. Quoi. Donc moi, c'est mon objectif. Après, je pourrais vivre dans une roulotte. Et je veux dire, ça ne me dérange pas, quoi.
Je suis tombée un peu par hasard au drapier. Et tout de suite, j'ai senti qu'effectivement, ce projet pouvait m'intéresser. Et ben, le fait, en plus de connaître Thomas, c'est vrai que ça a facilité les choses. Et à un moment, ben, je pense qu'on avait envie de vivre ensemble. Et j'avais envie, moi aussi, de vivre dans ce projet. Parce que le fait d'habiter dans un appartement, j'avais toujours un pied en dehors et c'est vrai que j'avais à un moment donné envie vraiment de me lancer, de faire partie du groupe, d'être reconnu aussi en tant que tel, de prendre une place. Et c'est pas évident non plus de comprendre au début, justement, c'est assez complexe, je veux dire, comme projet, comme réflexion. Et donc, avant de saisir vraiment tous les enjeux, de comprendre vraiment les finesses, ben, il a fallu quand même que j'assiste pendant quelques mois à des réunions hebdomadaires. Et maintenant, je commence à comprendre et à pouvoir m'intégrer, à trouver aussi ma place, à voir comment moi je peux participer avec ce que j'ai comme bagage, et voilà.
Pour moi, ce qui est plus merveilleux ici, c'est la convivialité. En fait, c'est le fait que tout le monde se dit bonjour. Tu ne verras jamais ça dans un appartement, j'ai pas mal loué auparavant. C'est le fait que personne ne ferme sa porte à clé. Ça, c'est quand même fantastique, tu verras ça quasiment nulle part. On n'a pas de problème de violence, d'agressivité, ni de... Et dès qu'il y a le moindre petit problème entre une personne ou l'autre, ben ça se règle très vite fait. Si c'est grave, ça se réglera en réunion. Ce n'est jamais arrivé.
A priori, si on présente le projet Interjoint, ils vont se dire, mais enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont... Qu'est-ce qui l'a plus motivé à quitter le confort cosy d'un petit appartement anonyme, avec une grosse serrure où personne ne peut venir te chasser de là? Qu'est-ce qui vous porte finalement à quitter ce que beaucoup de gens tiennent pour une sécurité, quoi?
C'est très très difficile de trouver un loyer à moins de 400 euros pour le moment. En plus, il faut avancer la caution. Le système fait que beaucoup de gens, comme moi, je le reconnais, rendant parfois dans la vie pseudo-normale à se retrouver endetté. Après ça, il faut rembourser. Donc le faible loyer est très intéressant. Mais moi, personnellement, il n'y a pas que ça. Il y avait la convivialité du groupe aussi. Maintenant, depuis que je connais ces gens, j'ai vraiment envie de foncer avec. Enfin, ces gens, j'en fais partie. C'est... Voilà, quoi.
Quand tu débarques chez quelqu'un, je sais pas, t'as bien des potes qui habitent dans un petit appartement comme tout le monde, tu les envies parfois ou tu te dis qu'ils passent vraiment à côté de quelque chose?
Je pense qu'ils passent à côté de quelque chose, ouais.
Et comment tu pourrais qualifier ce quelque chose en quelques mots? Tu nous as parlé de la convivialité, mais il y a peut-être quelque chose au-delà de ça.
Oui, bien sûr, oui, on a énormément de projets. On a plusieurs demandes de projets venant de l'extérieur aussi. Bon, moi, ce que je vois venir, ce sont quand même des cours de danse, j'espère des cours de langue espagnole ou des choses pareilles, des concerts, des tables d'hôtes, aussi un projet plus ouvert vers l'extérieur, vers nos voisins avec qui on a des bons contacts. Le reste doit venir de l'extérieur, que les gens nous fassent des projets, on triera, on prendra ce qui est le plus intéressant pour nous et en compatibilité avec les lieux, quoi.
Et idéalement, imaginons qu'il n'y ait aucun obstacle, Tagawa, ce serait devenu quoi, si on se laisse rêver, quoi?
Un paradis. Le paradis, simplement.
Le Tagawa s'impose comme une alternative à la pénurie de logements à Bruxelles, mais ce n'est pas qu'un simple logement, c'est aussi un projet culturel. Je reçois en studio Thomas, qui est l'un des habitants du lieu. Thomas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu donc à Carrefour du Monde. Alors, d'abord, je vais te demander de me définir le projet du Tagawa.
Oui, donc bon, ça a déjà été quand même fait, je dirais, par les interviews précédentes. C'est avant tout, disons, un projet social. On est réunis au nom de la Fédération d'entraide coopérative, qui se donne comme principe précisément d'essayer d'émanciper les gens à travers leur logement. Donc ici, ça s'est fait à travers l'occupation transitoire d'un immeuble abandonné qu'est l'hôtel Tagawa. Et je dirais, il y a des enjeux aussi sur le plus long terme. Par exemple, l'économie qui peut être réalisée peut permettre d'épargner et donc à terme à des familles d'aller dans le marché privé et de devenir propriétaire elle-même pour sortir elle-même du cycle, je dirais, de dépendance au marché locatif. Et par ailleurs, je dirais, on est en train d'essayer d'élaborer des contacts plus systématiques avec un ensemble de propriétaires qui laissent leurs biens vides, de manière à pouvoir reloger, selon nos principes d'organisation, un nombre plus grand de personnes qui sont dans le problème, point de vue logement, à Bruxelles et qui viennent nous trouver. Et effectivement, je dirais, ça c'est surtout circonstancié au lieu, mais effectivement, il y a des enjeux, je dirais, d'activité à pouvoir réaliser dans l'hôtel Tagawa, vu qu'il y a un rez-de-chaussée très très grand qui permet de réaliser toutes sortes de choses. Et donc là, bon, c'est, disons, un peu la rentrée. Il a fallu quand même pas mal de temps avant que les travaux de première base, style électricité, eau, soit résolu. Et donc aujourd'hui, on est effectivement en train d'organiser quelques petits événements, des concerts, des stages pour enfants aussi, vu qu'il y a plusieurs familles. Donc l'idée est toujours aussi d'essayer de contenter tous les publics, et y compris les publics d'enfants qui doivent se sentir bien, je dirais, dans l'entièreté de cet immense hôtel. Et donc il y a toute une série de projets qui sont, pour dire la vérité, surtout en train de se mettre en place maintenant, dans la mesure où il a fallu surtout s'attaquer, je dirais, au problème de salubrité dans un premier temps.
Dans les projets, par exemple, est-ce que tu as quelques pistes là à nous donner?
Oui, ben, donc concrètement, déjà des stages pour enfants qui prendraient place, enfin qui auraient lieu tous les samedis, qui permettraient de faire une rencontre un peu systématique justement entre les quelques enfants, disons, des moins de 10 ans, il y en a 6 dans l'hôtel. Donc là, ce serait de permettre que ces enfants rencontrent d'autres enfants dans une espèce d'échange où les parents s'organisent pour créer des ateliers un peu pour eux. Il y a des cours de danse qui sont prévus, d'aïkido, donc plutôt de sport, comme ça. Et par ailleurs, bon, il y a déjà eu toutes sortes d'autres initiatives. En fait, la plupart des initiatives partent avant tout des habitants et de leurs enjeux, des enjeux sociaux qui, eux, voient à organiser des choses. Donc, il y a déjà eu des tas d'activités qui ne sont pas nécessairement formelles, mais qui rassemblent des gens autour de, je sais pas moi, de lecture, de simplement jouer de la musique ou fêter un anniversaire ou des choses comme ça. Et malgré tout, par le nombre, ça crée quand même pas mal d'échanges, et donc les projets, au fur et à mesure, évoluent, se peaufinent aussi, quoi. Donc là, on est là-dedans.
Donc le Tagawa répond vraiment à un problème qui est le problème de la crise du logement, de l'augmentation des prix des loyers ou de l'immobilier ici à Bruxelles. C'est très similaire à la situation de Montréal où il y a une crise du logement qui est patente, il y a un organisme qui est le FRAPRU qui tente de gérer un petit peu cette crise. Globalement, ici, dans le cadre du Tagawa, la presse belge est assez positive, ou en tout cas assez ouverte par rapport à ce projet.
Oui, effectivement, au mois de juin, on a eu une aventure médiatique, disons, assez intéressante. Nous étions à l'époque justement dans les dernières phases, je dirais, de salubrification des lieux, quoi. Hein, on les rendrait salubres parce qu'on arrivait, il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, donc ça demandait toute une série de démarches. Et plus ou moins au moment où ça devenait correct, en fait, suite à une descente policière qui nous faisait croire que on allait essayer de jouer sur le manque de salubrité des lieux. On suivit en fait dans la suite à une émission de fond que la RTBF avait réalisée 2-3 mois plus tôt sur justement la crise spéculative de logement, les problèmes de logement à Bruxelles, dans lesquels on figurait comme initiative citoyenne d'organisation. Eh bien, je pense que suite à cette émission qui est repassée sur TV5, donc qui a peut-être été visionnée par certaines personnes à Montréal, suite à cette émission qui avait pris une ampleur internationale, tous les médias belges se sont intéressés, je dirais, à notre cause. Et donc, on est passé plus ou moins dans tous les JT nationaux, là, dans cette semaine-là, ainsi que toute la presse écrite. Et effectivement, il présentait, je dirais, de manière assez globale les enjeux sociaux, plutôt que de nous contraindre, je dirais, toujours à une politique locale qui problématise notre projet, comme ça a été souvent le cas par le passé. Et donc là, on sent qu'effectivement, on a peut-être les reins un peu plus solides et qu'on contrôle davantage aussi notre organisation et que quelque part, elle est davantage respectée, quoi.
Comment tu pourrais expliquer ce revirement de la part de la presse mainstream en Belgique ?
Ouais, je pense que c'est... Enfin, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est aussi un enchaînement. On a en fait, quand on était dans le projet précédent d'occupation, on a accueilli une famille qui, à mon avis, par les médias tout comme par l'opinion publique large, est identifiée comme ayant besoin légitimement d'aide. Et donc, à partir de là, je dirais, on est passé d'un niveau de médias de presse écrasée, enfin de chien écrasé, à la RTBF, qui, à l'époque, dans une émission populiste, nous a présenté, comme ça, c'était le thème, c'était SDF, mendicité, faut-il faire la charité. Et de là, à mon avis, des équipes qui traitent le problème plus en fond, ayant pris conscience de l'existence de notre groupe par cette émission-là, auront probablement décidé de faire un travail plus de fond et ainsi de suite. Et je dirais ça a plutôt déclenché en cascade, par le haut, par les médias nationaux, l'intérêt de l'ensemble des autres médias.
Alors, si je te demandais de me dire en quelques mots l'avenir du Tagawa pour toi et de l'avenir de ce mouvement, comment tu le verrais ?
Je pense, bon, d'abord, d'un point de vue interne, les enjeux, c'est de parvenir à dynamiser ce lieu de vie aussi en dehors du strict enjeu d'habitat, dans la mesure où il y a vraiment des potentiels à développer là. Donc là, ça demande une organisation assez conséquente, donc on s'y attelle pour le moment. Donc là, j'imagine que des tas d'activités pourraient s'y passer, je ne vais pas essayer de les qualifier là maintenant. Et par rapport à l'enjeu social, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est vraiment en train d'essayer de systématiser le principe d'occupation transitoire d'immeubles abandonnés, en prenant contact préalable avec les propriétaires, en essayant de présenter comment notre groupe fonctionne, parce qu'on a réellement un public de gens qui sont demandeurs, qui sont prêts à s'insérer dans une nouvelle maison si le projet peut fonctionner. Et donc là, il s'agit effectivement à la fois de responsabiliser les gens qui seraient intéressés par ce type d'habitat, et en même temps d'essayer de petit à petit sensibiliser dans ce contexte de crise l'ensemble des propriétaires en participant à certains réflexes que l'État met en place lui-même, c'est-à-dire recenser les bâtiments vides et puis contacter le propriétaire. Donc on est vraiment là-dedans et on espère qu'à terme, il puisse y avoir un ensemble d'immeubles qui soit géré de cette manière-là par notre fédération, quoi.
Mais voilà, c'est ici que se referme cette émission de Carrefour du Monde. Merci à Thomas d'être venu nous parler du Tagawa. Merci aussi à toute l'équipe, Nicolas Torres à Bruxelles, Nathalie à la technique et Clarisse Serigna pour le site internet. Voici justement l'adresse du site carrefourdumonde.org. Toutes nos archives et un tas d'infos seront disponibles sur le site. La prochaine édition de Carrefour du Monde sera l'émission de rentrée. La formule reste la même, 30 minutes d'actualité internationale vue de manière décalée. Vous retrouverez donc toutes les revues d'actualité et les reportages de nos correspondants. Je vous donne rendez-vous à Bruxelles le mardi à 13h30 sur Radio Campus 107.2 FM ainsi que sur Radio Panique 105.4 FM, à Mons le mercredi à 10h et le samedi à midi sur RLJ 99.9 FM et à Montréal le dimanche à 9h sur CSM 89.3 FM. Ici Nicolas Willems à Bruxelles, à la prochaine, ciao.